Média.
L'AFM n'a plus le monopole du son. Et d'ailleurs, rappelez-vous, je vous disais il y a quelques jours que la Norvège avait définitivement débranché ses émetteurs. Cela dit, vous connaissez l'adage que j'adapte à dessein. La radio est morte, vive la radio, ou plutôt vive le son. Oui, parce que désormais, ce sont les podcasts qui ont la cote. Écoutez plutôt. La semaine dernière, France Culture se félicitait de son record d'audience historique sur les ondes avec, je cite, ses 2,3% d'audience cumulée en semaine, soit 1 234 000 auditeurs quotidiens. Pas mal, pas mal. Mais quand on regarde de plus près les données sur la diffusion de cette radio des savoirs, qui trouve-t-on? Il y a eu 15,3 millions de téléchargements de podcasts France Culture en novembre 2016.
Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur les chemins du vendredi, où chaque semaine nous donnons la parole aux philosophes contemporains qui s'aventurent dans les dédales de la pensée.
Celle que l'on vient d'entendre, c'est l'une des femmes les plus podcastées de France et de Navarre, Adèle Van Rett, qui produit l'émission Les chemins de la philosophie sur France Culture, une émission où l'on parle de Descartes, de Montaigne ou de Sartre. Et ce genre d'émission ultra exigeante, manifestement, les internautes adorent. Eh bien cette semaine, nous irons voir non pas du côté de ces radios historiques qui aujourd'hui se font allègrement podcaster, ce que je vous propose, c'est un voyage du côté de ceux qui ne misent que sur la balado-diffusion, comme disent à juste titre les Québécois. Nous irons donc à la rencontre de Daniel Mermet et de l'équipe de Laba.org, une aventure sonore et numérique qui prolonge l'une des émissions historiques de France Inter. En seconde partie d'émission, nous nous aventurerons du côté de Slate.fr d'abord, et nous verrons pourquoi ce pure player met tant d'énergie à développer son offre podcast. Avant d'aller jeter un œil et une oreille du côté de Binge Audio, un projet 100% numérique et un média 100% son. Allez, suffisamment parlé, c'est l'heure de notre coup de fil de la semaine et on appelle Christian Loca à Douala, au Cameroun.
L'atelier des médias, à l'écoute de la société numérique et de l'innovation.
Bonjour Christian.
Bonjour Julien.
Alors vous êtes journaliste et vous êtes directeur du site info-cameroun.com. Alors dites-nous tout Christian Loca, qu'est-ce que c'est que info-cameroun.com?
Alors info-cameroun.com est une filiale du groupe Info Afrique, qui est une association du droit français qui a des filiales au Cameroun, en Centrafrique, au Gabon et au Sénégal notamment.
Christian Loca, vous paraissez bien sage comme ça, alors que je crois savoir que vous étiez à Johannesburg en novembre 2016, puisque en fait on avait entendu ici à l'antenne Jean-Baptiste Renaud, journaliste pour l'émission Cache Investigation sur France 2, qui était d'ailleurs invité lui aussi à une conférence sur l'investigation. Qu'est-ce que vous êtes allé faire, vous, sur place, Christian Loca?
D'abord, il faut dire que je suis journaliste freelance et je me suis intéressé à l'investigation depuis environ 5 ans maintenant. C'est dans ce cadre que j'ai été invité à Johannesburg parmi les orateurs de la conférence africaine sur le journalisme d'investigation, c'était en novembre 2016. Et justement parce que il y a un mois, juste avant cette conférence, j'ai publié une enquête transfrontalière sur les diamants de sang qui sortent de la Centrafrique pour le marché international via le Cameroun. Et donc, dans cette enquête, j'ai démontré que le Cameroun était un pays de transit, un facilitateur du trafic illégal de diamants de sang en provenance de la Centrafrique. Et donc, dans ce cas, à Johannesburg, j'ai eu l'honneur d'exposer sur 3 thèmes, notamment sur le thème principal qui m'a fait partie à Johannesburg, c'est-à-dire le trafic illicite des diamants. Deuxièmement, j'ai exposé sur le journalisme d'immersion, troisièmement sur le journalisme d'investigation en Afrique francophone.
Christian Loca, dans la nuit du 17 au 18 janvier, il y a eu une coupure générale de l'accès à Internet au Cameroun. Et depuis, si la connexion est revenue dans l'ensemble du pays, il y a 2 régions spécifiques qui demeurent à ce jour coupées du réseau Internet global. Et les 2 régions sont les régions anglophones de ce pays. Est-ce que je me trompe?
Non, vous ne vous trompez pas. Effectivement, il y a eu coupure de la connexion Internet dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, suivi des menaces du gouvernement qui pèsent désormais sur les utilisateurs des réseaux sociaux. Parce que je vous rappelle que le ministre des Postes et Télécommunications a envoyé des, SMS aux abonnés des sociétés de téléphonie mobile pour rappeler que la loi condamne la publication et la propagation de fausses nouvelles via les réseaux sociaux. Et donc, cette coupure de la connexion Internet vient à la suite d'un certain nombre d'actions du gouvernement pour, je vais dire, étouffer la crise anglophone. Donc, il y a eu des arrestations déjà avant cette coupure. Il y a eu des appels au retour à l'école, des appels des turiférés du régime pour saluer l'action du chef de l'État. Donc, cette coupure arrive un peu comme une action de trop du gouvernement pour étouffer tout ce qui se passe dans les régions anglophones du pays.
Oui, parce que depuis novembre 2016, il y a des manifestations régulières dans ces régions pour protester contre la marginalisation ressentie par les populations. Et ces dernières demandent au gouvernement central justement de trouver des solutions pratiques pour y mettre fin. Et la réponse, si j'ai bien compris, c'est donc de tenter de faire taire ces protestations en coupant l'accès à Internet.
Oui, du point de vue du gouvernement, en passant par cette méthode, c'est-à-dire en coupant Internet, cela va empêcher que des leaders du mouvement anglophone qui sont dans la diaspora et même dans le pays puissent envoyer des images, puissent envoyer des SMS via les réseaux sociaux. En le faisant, c'est une façon d'étouffer cette crise, mais on regarde, on voit bien que ça n'a pas d'effet escompté. En tout cas, je suis pas membre du gouvernement, mais je dis, tel que les choses se présentent, j'ai l'impression que le gouvernement n'est pas en train de recevoir les résultats escomptés de cette action, puisque les coûts n'ont véritablement pas repris et que les villes mortes, le mot d'ordre lancé par ces leaders sur les villes mortes est largement suivi et appliqué sur le terrain.
En tout cas, vous pouvez retrouver beaucoup d'informations sur toute cette coupure du réseau Internet global au Cameroun sur les sites de Internet sans frontières. En tout cas, Christian Loca, je rappelle aux auditeurs que vous êtes journaliste et directeur du site info-cameroun.com. Merci Christian.
Merci Julien.
Faites-nous part de vos actualités médias et innovations en publiant sur le site de l'Atelier des médias, atelier.rfi.fr.
Quoi de neuf, quoi de beau cette semaine dans le radar de l'Atelier des médias? Le Monde dégaine son décodex pour désinguer les fake news. Le décodex, c'est d'abord, comme son nom l'indique, un index recensant 600 sources d'informations ou des sites susceptibles de diffuser de fausses informations. Ce sont les journalistes des décodeurs qui ont réalisé cet inventaire, mais cette liste a vocation à s'étoffer dans le temps à compter du 1er février et cette liste sera accessible à tous les internautes. D'ailleurs, le décodex, c'est aussi un outil pour accompagner les internautes dans leur navigation quotidienne et ça, c'est très bien vu. Les internautes pourront télécharger une extension Firefox ou Chrome leur permettant d'avoir pour chaque site identifié par le décodex une notice donnant notamment un indice de véracité allant de fiable à parodique. Le décodex, enfin, parce que 2017 c'est l'année des bots, eh bien c'est un bot sur Messenger que les internautes pourront interroger sur la véracité de tel ou tel lien et qui donnera qui plus est des conseils et des ressources pour apprendre à mieux s'informer sur les réseaux. Un projet bien senti qui nous rappelle que le journalisme, c'est aussi un service rendu aux internautes. Quand l'administration Trump s'attaque aux faits ou à la réalité des faits en vantant les mérites de ces faits alternatifs, eh bien les chercheurs organisent la résistance. La nouvelle administration Trump a notamment demandé aux fonctionnaires en charge des questions environnementales et agricoles de se taire sur les réseaux sociaux et de ne plus communiquer sur leurs données. On a donc vu des comptes alternatifs à certaines de ces institutions que Trump voulait bâillonner voir le jour à l'image du compte Twitter des grands parcs nationaux américains, ainsi que la création d'un data refuge pour protéger les données portant sur les preuves factuelles du changement climatique d'une administration qui nie farouchement l'existence même de ce changement climatique. Ce site, on le retrouve sur datarefuge.org. Au passage, merci à la communauté des muséogeeks de m'avoir alerté sur cette information. Je termine cette séquence brève en saluant et en soutenant nos confrères d'Explicit, une aventure éditoriale née de l'association de plus de 50 journalistes qui ont quitté iTélé. Et hop, nous partageons à l'instant sur Twitter un lien vers leur campagne de financement participatif et on leur souhaite bonne chance. Oui, à l'atelier, on tweet presque tout ce qu'on brève au micro, donc tous les liens sont à retrouver dès maintenant sur le compte Twitter de l'atelier, @atelier_media.
RFI.
Le monde de la radio vit en ce moment sa petite révolution. Le podcast qu'on croyait mort renaît de ses cendres et suscite un engouement. Un engouement côté auditeur puisqu'il se compte par centaines de milliers pour certaines émissions et un engouement désormais du côté des médias qui tentent parfois leur chance sur le front de la balado-diffusion. J'ai demandé à notre reporter Constance Léon d'aller enquêter sur ce sujet. Bonjour Constance.
Bonjour Julien.
Vous êtes partie à la rencontre de trois initiatives audio qui ne sont pas nées dans des radios, Slate.fr, Binge Audio et Labas.org.
Pour mémoire, avant d'être Labas.org, c'était d'abord Labas si j'y suis, une émission historique du service public et sa marque de fabrique, c'est son engagement pour certains ou son militantisme pour d'autres. Aujourd'hui encore, les aficionados de Labas se retrouvent partout en France dans le cadre de ce qu'ils appellent les repères, des rendez-vous pour débattre entre passionnés.
Et les auditeurs de cette émission, c'est une véritable communauté. En 2014, après l'éviction de Labas si j'y suis des ondes de Radio France, et poussé par cette communauté, Daniel Mermet et une partie de son équipe reprennent du service, mais cette fois en ligne. Constance, quand vous avez rencontré l'équipe de Labas, c'était juste avant Noël, il faisait froid comme tout, mais surtout, Daniel Mermet et ses compagnons était en plein préparatif d'une émission un peu particulière.
Oui, j'ai débarqué un soir dans la rédac de Labas. En descendant, au sous-sol où se trouve le studio, un vieux nagra est posé tel une relique dans un recoin de l'escalier. Un peu plus loin, Michel-Ange le monteur et Daniel Mermet écoutent la dernière mouture de la chronique de Gérard Mordillat. Ils ont l'air de bien s'amuser.
Et là aussi, il y a des enfants Jésus. En érection, il y a une toile de Corrège.
Qu'est-ce que vous faites
comme ça, là, je fais un mixage pour une vidéo sur Jésus. Et c'est partie intime.
Ouais. On se demande si Jésus... Enfin, c'est pas nous qui nous demandons ça. Hein. C'était Jacques Prévert qui disait « Jésus-Christ a une quéquette pas plus grosse qu'une allumette. Il s'en sert pour faire pipi. Vive la quéquette à Jésus-Christ. » C'est pas contre Jésus, puisque c'est « vive Jésus-Christ ». Et bon, ça va, c'est littéraire, c'est culturel, c'est Prévert. Donc on a choisi de sortir ça au moment de Noël parce que c'est la naissance du petit Jésus. Donc ça correspond, c'est l'actualité. Nous, on sait bien que Jésus, en fait, était une fille et qu'elle était noire, mais bon, ça c'est autre chose. Salut, c'est Daniel Mermet, c'est Labas si j'y suis, avec l'équipe du Monde Diplomatique.
Flight number 2, arriving from
New York. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux savoir? Ah oui, alors que je dise que je suis Daniel Mermet, voilà, c'est, je suis Daniel Mermet.
Et alors, Daniel Mermet, où sommes-nous?
Eh bien, on est dans le superbe local de Labas si j'y suis, qui est installé ici maintenant, au bord du bassin de la Villette, où nous sommes depuis juin 2015, c'est tout frais, ça fait un an et demi, et voilà, c'était dessiné par un gars de l'équipe, qui a fait du plan, et tout ça est exclusivement financé par les abonnements, il n'y a pas d'autre financement que les abonnements.
Donc, les 20 000 abonnés, ouais, qui payent entre 1 et 5 euros par mois.
Oui, enfin, plutôt 5. Hein. 1, c'est rare.
Ouais, salut Daniel. Bah, j'ai entendu juste les 10 dernières minutes de l'émission d'hier. Alors, ton appel et te nous angoisse, je pense, à peu près tous, là, en disant que l'émission serait peut-être par conduite à la rentrée.
Bonjour, Labas. Alors, Labas, si tu y es plus, moi, c'est Sam, je n'écoute plus France Inter.
Qu'est-ce qui différencie, au fond, labassijysuis.org de labassijysuis sur France Inter?
Il n'y a aucune différence. Labassijysuis sur Inter, ça a duré 25 ans, 5000 émissions, avec un très grand succès populaire, des prix, etc. Ça a fini par... Radio France a fini par se débarrasser de cette anomalie qui était là-bas si j'y suis. Et donc, on a été poussé par les auditeurs à continuer. On a eu des milliers, des milliers, des milliers de l'aide, de soutien, etc. Pas seulement des soutiens des auditeurs, mais des confrères, des syndicats, jusqu'à Madame Taubira qui nous a soutenus. Et donc, on a dit, ben voilà, on a suivi le cheminement de Schneiderman. Daniel Schneiderman s'était fait virer, c'est 2007, je crois. Et donc, il a eu aussi des pétitions. Il a une pétition, il a transformé la pétition en abonnement, voilà, et on a suivi un peu, on a copié le même programme, et donc on a proposé, on a fini un site qui était en cours de construction, et puis on a proposé aux gens de s'abonner, ce qu'ils ont fait, et on a lancé ça le 21 janvier, donc 2015. Donc on a passé une première année à s'installer ici, on a tout le matos, on a des équipements et tout. On en est à 30 000 visiteurs uniques, c'est vu, ça s'écrit VU. Visiteurs uniques par jour et 1 million par mois et 20 000 abonnés, voilà les chiffres. On est une dizaine d'équivalents temps plein. Et voilà, c'est une association 1901, sans but lucratif, pas de bénévoles. Il y a des CDI, il y a 4-5 CDI et des gens qui sont en CDD mais qui vont passer en CDI le plus vite possible.
Comment ça se passe?
Bon, en gros,
Le prénom.
Djibril.
Djibril et
Et Mousse.
C'est combien, Djibril? T'as pris combien?
Moi, j'ai pris 5 mois, moi. Tu vois, en gros, là-dedans, c'est ça. On est 3 par cellule, 9 mètres carrés. Il n'y a pas de place.
Pas une condition.
Il y a des punaises partout. Il y a des cafards. Il y a les rats dans les coursives. Vas-y, les chefs, ils ne nous respectent pas. Ah, vas-y, hein, friend, c'est la prison la plus sale de l'Île-de-France.
On est avec Adeline Azan, qui est Madame le Contrôleur Général des lieux de privation de liberté. Bonjour.
Bonjour.
Récemment, tout le monde a été saisi, scandalisé, choqué, indigné par un rapport que vous avez publié. Adeline Azan, vous avez conduit cette enquête à la prison de Fresnes. Est-ce que ce qu'on vient d'entendre là correspond à ce que vous avez...
Oui, le plus inquiétant, c'est que nous étions déjà allés, le contrôle général était déjà allé à Fresnes en 2012, qui est quand même pas si vieux que ça, et n'avait pas fait du tout les mêmes constats. Enfin, certaines choses avaient été relevées, mais vraiment, ce qui a été constaté, c'est que ça s'est énormément dégradé en 4 ans.
Quand vous allumez la radio, j'adore l'expression « allumer », et vous êtes toute seule chez vous, vous rejoignez une communauté d'auditeurs, ok ? Vous dites, en appuyant sur un bouton, vous faites partie des auditeurs. Et en ce moment, à l'instant même, vous dites qu'il y a des milliers, on a eu quelques milliers, à qui on dit ça? C'est la différence que vous avez entre de regarder un film chez vous, le regarder dans une salle. Quand vous êtes dans une salle, vous êtes un public, vous faites partie du public. Et vous allez rigoler en même temps que les gens, il va y avoir des silences où tout le monde va pleurnicher. Voilà, vous êtes un public. Okay. Quand vous écoutez un podcast, vous êtes toute seule dans votre bagnole ou dans le métro et vous écoutez une émission, un podcast. Donc c'est un objet détaché de la continuité radiophonique. Et ça devient un objet sonore. C'est pas la radio, c'est un objet sonore. C'est ce que fait Arte, par exemple, formidablement. On fait de très beaux objets sonores, mais qui restent des objets sonores qui sont radiophoniques, si on veut. La radio, c'est un flux. Et c'est ce qu'on va faire ici.
Sur la FM ?
Bah, non, justement, mais non. Parce que la Wi-Fi est partout. Donc, la FM va disparaître. Disparaître, je ne sais pas quand. Mais les fréquences, l'attribution des fréquences, c'est fini. Vous allez avoir des milliers de possibilités. Et là, on va pouvoir faire une radio en continu.
Ça tombe bien, on va pouvoir continuer de parler pop-up numérique et podcast dans quelques minutes. Nous irons voir pourquoi Slate.fr s'est mis à fabriquer des podcasts et nous tenterons d'en savoir plus sur les cuisines et les recettes de Binge Audio, un média entièrement structuré autour de ces podcasts. À tout de suite, après le flash. Média, seconde partie.
Cette semaine, on s'interroge sur le pourquoi du comment de la ruée sur les podcasts en France. Après le détour que nous avons fait du côté de labas.org, je vous propose maintenant de rencontrer deux nouveaux acteurs de la balado-diffusion en France. Et on commence avec Slate.fr. Au départ, pour moi, Slate, c'était de la bonne veille, de la curation et des articles. Mais depuis juin 2016, soit 7 ans après sa création, Slate.fr, c'est aussi du son. On a envoyé Constance Léon qui est arrivé en pleine séance de montage.
J'ai l'impression d'être tombé, je crois que je suis tombé amoureux de cette fille.
Moi je pense que la première coupe, il faut qu'on lui passe ou à 21-12.
La fuite, c'est ça, ouais. dès qu'il il part avec elle.
Ouais. Alors je m'appelle Charlotte Pudlowski, je suis rédactrice en chef de Slate.fr.
Moi c'est Alexandre Moignol, je suis reporter et documentariste sonore.
Et là on va faire une écoute du prochain épisode de Transfert, qui est un des deux podcasts qu'on a.
Parmi les premières personnes que je rencontre là-bas, il y a un type qui s'appelle Ratiche, qui m'emmène donc très rapidement chez lui. Et donc on nous installe pour prendre le thé, et puis là je vois qu'une jeune fille nous amène le thé, habillée très simplement, très discrète, très gracieuse. Et j'avoue que sur le moment, même si j'avais trouvé déjà les filles indiennes très jolies, j'avoue que là j'ai eu un sentiment assez saisissant. Je me disais, mais c'est fou, autant de grâce et de beauté incarnée en une seule jeune femme. Et donc voilà, comme j'étais très jeune et avec encore beaucoup de désir de vivre, j'ai l'impression d'être tombé. Je crois que je suis tombé amoureux de cette fille, Bindou.
Pourquoi Slate.fr s'est mis à produire des podcasts audio ?
Il y a quelque chose de propre à Slate, qui est qu'on a toujours cru au long, depuis le début, au fait de prendre son temps, de faire du récit analytique en profondeur. Et le son permet ça aujourd'hui, je crois, plus que beaucoup d'autres médias. Au lieu d'être dans la frénésie de l'image, d'être inondé de choses comme tous les jours au quotidien, on peut s'extraire un petit peu de cette frénésie et prendre le temps. Et ça fait partie des marques de fabrique de Slate.
Y a-t-il une influence de Slate.com sur le site Slate.fr et sur les podcasts que produit Slate.fr ?
Il y a une influence très forte de Slate.com dans ce qu'on fait, puisqu'on s'est inspiré d'eux depuis le départ. Ça nous a influencés. Après, eux se sont lancés davantage sur le talk au départ, notamment parce que l'offre est très différente aux États-Unis et il y avait énormément de choses nouvelles à faire sur le talk. En France, on a une offre radio qui est extrêmement forte, extrêmement riche. On a une radio, et notamment une radio publique de très grande qualité en France, et on a des émissions de conversation, par exemple, je sais pas, Le Masque et la Plume sur France Inter, qui est une émission culturelle extrêmement suivie, extrêmement riche, qui a une très grande ancienneté. Donc nous, pour Slate, ça nous paraissait moins pertinent de se lancer sur ces émissions de conversation. Et à l'inverse, il n'y a pas du tout les formats narratifs qu'on trouve aux États-Unis depuis très longtemps. On les trouve pas en France. Il y a des choses qui existent. Il y a Les Pieds sur Terre, par exemple, sur France Culture. Mais il n'y a pas du tout ces émissions narratives de storytelling très poussées avec du suspense, un peu les codes de séries, de narration américaine, etc. Et du coup, nous, ça nous paraissait plus pertinent par rapport à ce qui existe en France de se lancer sur des histoires. Et c'est pour ça, notamment, qu'on a lancé Transfert.
From This American Life and WBEZ Chicago, it's Serial. One story told week by week. I'm Sarah Koenig.
Previously, on Serial.
Quelle est l'influence du podcast américain Serial sur les podcasts français que produisent Slate.fr ?
L'influence de Serial, elle est énorme. C'était vraiment un des points de départ, de dire voilà, on peut faire ça en son aujourd'hui, et du coup, on va s'en servir dans les codes, dans la manière de penser la musique, dans la manière de penser la voix, dans la manière de penser la construction d'un épisode, etc. Après, Serial, c'est un fait divers, c'est presque un polar, même si c'est un fait réel. Nous, sur Transfert, on est plus sur de l'intime, sur de l'introspection, sur une manière de faire entendre des voix différentes à chaque épisode, des histoires différentes à chaque épisode. Donc c'est quand même un format assez différent.
Pouvez-vous présenter les deux podcasts que diffuse Slate.fr ?
Alors le premier, c'est Transfert, qui est un format narratif introspectif où des gens racontent des histoires intimes, différentes à chaque épisode, des histoires qui sont à la fois très fortes, un peu dingues, avec des rebondissements, avec du suspense, et qui sont à la fois des histoires de gens normaux, entre guillemets, des histoires de famille, des histoires de secrets, des histoires de couple, des histoires douloureuses parfois, qui racontent des parcours de vie et qui nous permettent de nous identifier, de faire un transfert parfois sur ces histoires, et de réfléchir à la manière dont on vit aujourd'hui, voilà, de réfléchir à ce que c'est une existence contemporaine, moderne, on va dire. Et puis notre autre format, c'est Les Sales Gosses, c'est une émission de conversation, donc de talk, diraient les Américains, présentée par Nadia Adam. Et c'est une émission d'une heure mensuelle où à chaque fois Nadia invite une personne pour discuter de ce que c'est la famille aujourd'hui, de ce que c'est d'avoir des enfants aujourd'hui, de ce que c'est voilà cette cellule qui se réinvente dans le monde contemporain.
Quel a été votre déclic pour implanter le podcast sur Slate.fr et pour réfléchir en termes de stratégie et de modèle économique?
Alors l'idée, c'était que pour faire ces podcasts, on allait avoir besoin d'argent et que c'était possible de démarcher des gens avant même de lancer les podcasts et de dire on a envie de faire ça, est-ce que vous êtes prêts à nous soutenir? On est allé voir quelques boîtes et la première avec qui on a eu un super contact, c'était Audible, qui est la société de livres audio d'Amazon. Et on s'est lancé dans une réflexion sur plusieurs mois. Sur comment ils pouvaient sponsoriser nos podcasts. Et l'idée, c'était qu'ils nous donnaient une certaine somme d'argent qui correspondait à ce qu'on pouvait produire et qu'en échange, ils étaient les sponsors, c'est-à-dire qu'il y a un message publicitaire de la part d'Audible au début de chaque épisode. Ils sont aussi présents sur la page article de Slate avec une bannière. Et voilà, c'est ce modèle économique qui fonctionne extrêmement bien pour nous.
Combien coûte un épisode de transfert et un épisode des Sales Gosses à produire?
Un épisode de transfert, ça coûte environ 2000-2500 euros entre le salaire du journaliste, le mixage, la musique qui est composée originale à chaque épisode. Il y a l'illustration qui va être mise sur l'article. Nos illustrations sont faites par une illustratrice qui s'appelle Mugluk, qui est géniale. Donc voilà, tout ce travail-là qui va coûter environ 2500 euros. Et puis un épisode des Sales Gosses, ça coûte forcément moins de 1000 euros puisqu'il y a la journaliste et puis ensuite il y a assez peu de frais finalement puisque c'est enregistré en studio avec ensuite un peu de montage et de mixage à la fin.
Quel est votre rapport personnel à la radio?
Moi au départ j'étais une auditrice de France Inter depuis que je suis toute petite, par mes parents, par ma famille, etc. Et je suis arrivée au podcast américain quand j'ai fait une partie de mes études aux États-Unis. Et je suis une dingue d'histoire de manière plus générale, aussi bien de longues reads, comme on dit, de longs articles de journalisme américain, que de littérature, que de cinéma, et donc ce qui me plaît dans la radio et dans les podcasts, c'est quand on me raconte des histoires, je pense que ça tisse un lien intime très particulier, que c'est une pratique culturelle à part entière, de la même manière qu'on a les séries, le cinéma, la littérature, on a l'écoute de la radio, et c'est vrai que en France, c'est peut-être moins considéré parfois comme une pratique culturelle à part entière. On écoute moins de livres audio, par exemple, que les Américains ou que les Allemands. Mais je pense que c'est vraiment, j'aime pas trop dire produit culturel, mais c'est quand même ça, quelque chose de très fort avec ses particularités intrinsèques, son rapport à l'intime.
Y a-t-il un nouveau format qui est amené à naître en dehors de transferts et des Sales Gosses?
On réfléchit à plein de nouveaux formats, on réfléchit à des émissions ou autour des neurosciences ou des constructions mentales ou de la psychologie ou de la personnalité. Mais en fait, je pense que moins que de chercher tel ou tel thème, un peu comme quand on va remplir une grille à la radio ou à la télé, par exemple, on va se dire il nous faut une émission sur ce thème-là, etc. Je pense que pour les podcasts, la logique est plutôt de se dire quelle est la personnalité de l'émission qu'on a envie de mettre en avant, que ce soit la personne qui va présenter ou que ce soit le sentiment qu'on a envie de conférer avec telle ou telle émission. Avec Transfert, on est quelque chose vraiment sur l'intime, l'introspection, l'analyse, le récit de soi. Est-ce qu'on a envie de faire quelque chose maintenant de plus politique, surtout dans la période actuelle, ou est-ce qu'on a envie de faire quelque chose de plus collectif, de moins centré sur l'individu? Voilà, c'est ces logiques-là. C'est pas seulement la thématique, mais c'est comment on va construire, qu'est-ce qu'on va raconter, comment on va le raconter.
La captivité peut avoir une couleur, comme celle qu'a donnée Guy Delisle à son dernier roman graphique, S'enfuir. Un bleu-gris qui ressemble à l'obscurité, restitue l'absence de lumière. Un bleu nocturne, comme on dit, une nuit sans étoiles, une nuit sans fin, les nuits que par analogie on associe à la mort. Un bleu nocturne comme un bleu silencieux, par opposition au jour qui accueille la lumière et ses métaphores, la chaleur, la vie. Comme Christophe André, le héros du récit de Guy Delisle, qui a été otage du Caucase à la fin des années 90, Serge Lazarevitch a connu ce bleu-là, sans lumière. Il a connu ce bleu-là au Mali, pendant 3 ans, otage d'Acmi. Il raconte ses couleurs, son enfermement, sa captivité à Alexandre Moniol. Il raconte des années de terreur, puis la disparition de ce sentiment, la disparition de la peur. Au bleu de l'enfermement, il prête sa voix.
J'ai plus rien d'un être humain, je dirais. Je serais capable de faire n'importe quoi, puisque j'ai plus de sensation d'adrénaline, j'ai plus de sensation de peur. Je ressens plus la peur de la mort, quoi. Si quelqu'un me dérange, je serais capable de tuer quelqu'un, mais sans ressentir quoi que ce soit de la mort. Parfois, je me dis, je suis une espèce de robot, une espèce de machine folle. J'ai pas de larmes qui sortent de moi, je suis ému par peu de choses, parce que plus rien ne me touche. J'ai un sentiment d'amour envers ma femme, envers les petits-enfants, envers ma famille, envers des gens que j'aime, mais c'est pas la même chose que ce que je ressentais avant.
Quel est le temps de production, de transfert et de Salgosse?
C'est assez difficile à évaluer comme ça. Il y a le temps de recherche d'histoire, le temps de pré-interview avec tel ou tel sujet qu'on va traiter. Il y a le temps d'aller-retour avec le journaliste, de réflexion sur la construction de l'histoire. Parfois, il faut retourner ensuite faire une interview, 2 interviews, 3 interviews. Il y a des sujets qui nous demandent des heures et des heures de discussion avec la personne qui est interviewée, et puis d'autres qui vont se faire plus rapidement parce que la personne est très à l'aise, parce que sa pensée est très construite, parce qu'elle sait exactement comment elle a envie de raconter son histoire et qu'elle donne tout du premier coup. Et puis il y a les allers-retours avec les musiciens qui travaillent sur les différents épisodes, donc ça prend plusieurs semaines, souvent la production d'un épisode. Et puis les sales gosses, c'est un peu comme un article, il y a le temps de construction de l'interview, de préparation. Madame lit les livres de ses invités, elle se renseigne de manière approfondie sur les sujets qu'elle va traiter, et puis ensuite il y a le temps d'enregistrement et éventuellement un peu de montage derrière.
Audible est donc un annonceur ou un partenaire ?
C'est un peu particulier, c'est un peu les deux, c'est un sponsor, on va dire. C'est-à-dire que c'est un partenaire au sens où ils nous ont accompagnés avant même que le format existe. Ils nous ont fait une confiance assez incroyable, et c'est assez formidable de pouvoir travailler dans des conditions pareilles, parce que les médias vont pas très bien en ce moment, parce que c'est très difficile de trouver de l'argent, et quand on a quelqu'un qui arrive et qui nous dit, vous savez quoi, quel que soit le nombre d'écoutes que vous allez faire, quel que soit le nombre de clics que vous allez faire sur les podcasts, nous c'est le format qui nous intéresse. C'est le fait que vous soyez innovant, c'est le fait que vous ayez envie d'inventer quelque chose d'un peu nouveau dans les médias, et donc on va être là. Donc c'est pas exactement un annonceur classique. Après, c'est pas complètement un partenaire au sens où ils sont jamais rentrés dans la logique éditoriale. Donc disons que c'est un partenaire au meilleur sens du terme, mais un partenaire qui comprend intelligemment que un média a besoin de son indépendance et non pas de travailler avec un annonceur sa matière. Ça, c'est pas possible éthiquement.
Atelier des médias, on continue notre voyage dans les podcasts en France. Binge Audio, c'est une sorte de boîte de production comme on en voit beaucoup en télé, mais elle s'est spécialisée sur le podcast. Son terrain de jeu, c'est l'internet et l'écoute nomade. Montée par Joël Renez, bien connu dans le domaine de l'innovation média, et par Gabrielle Boéry-Charles, ex-collaboratrice du ministère de la Culture, Binge Audio existe depuis novembre 2016. Constance, vous avez voulu savoir ce qui faisait l'ADN de ce projet.
Je suis allée assister le mois dernier à l'enregistrement de l'un de ces podcast dans le 11e arrondissement de Paris. Nous sommes dans une petite salle de théâtre, sans fioritures, dans laquelle une 50aine de personnes attendent le début de nos ciné. Ils ont payé 3 à 5 euros pour assister à l'enregistrement de plusieurs émissions d'un coup. Quelques petits réglages et ça commence.
Alors, je vais appeler mes petits camarades qui sont cachés derrière le rideau en train de boire des bières. Oh, Donc, parce qu'on va commencer par du gros ou du lourd, avec une émission sur Star Wars, sur Rogue One, avec Daniel Andreev. Daniel, tu peux venir, s'il te plaît. Yannick Dahan, Rafik Djoumi, Alexandre Hervaux, David Honora et Stéphane Moïsaki. Salut, rentrez aussi.
Je suis Thomas Rozek, c'est moi qui anime Nos Ciné, donc le podcast sur le cinéma.
Tout le monde est prêt ? On y va ?
Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui n'a pas eu trop le choix de son programme du jour, puisque comme l'an dernier, quoique dans des proportions un peu moins importantes, un gros blizzard emporte toute l'actu ciné sur son passage. Un blizzard qui porte un nom jadis chéri de tous, aujourd'hui bien plus clivant, Star Wars qui nous revient avec un spin-off, le premier d'une série de trois, censé nous faire patienter entre les différents épisodes de la nouvelle saga. Ce spin-off, c'est évidemment Rogue One, et comme c'est la saison des cadeaux, on a décidé de vous offrir un épisode XXL avec toute une tripotée de nobles guerriers venus des quatre coins de l'univers connu. Daniel Andreev, salut Daniel.
Salut.
Yannick Dahan, salut Yannick. Assieds-toi mieux, s'il te plaît. Rafik Djoumi, salut Rafik.
Non, moi c'est Hachoum.
Hachoum, d'accord. Alexandre Hervaux, bonjour Alex.
Salut Thomas.
David Honora, salut David.
Salut.
Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane.
Salut Thomas.
Sans oublier le public réuni ici à l'antenne Paris. C'est Nos Ciné, épisode 63.
Alors, merci, on fait une courte pause de un petit quart d'heure pendant laquelle. Ceux qui veulent sortir peuvent le faire par le haut de la salle. Et sinon, on va vous proposer une projection en avant-première exclusivité d'un futur numéro de Beats qui va vous être présenté par Rafik Djoumi, qui en est le rédacteur en chef.
Bonjour, je suis Joël Ronez, 44 ans, cofondateur de Binge Audio. J'ai précédemment travaillé dans les médias, le service public audiovisuel, à Radio France et à Arte. Je suis producteur indépendant. Voilà. Là, les gens... on rentre dans 5 minutes, on finit d'enregistrer donc les extras, et on a à peu près 80 personnes qui vont arriver. Donc on est en train de finir de préparer aussi les projections, parce que pendant qu'en fait on enregistre, on projette derrière des images, des vidéos sans son, etc. Donc voilà, donc on a tout un dispositif, on essaie de mettre en scène un peu la radio, parce que les gens viennent, ils payent leur place, et donc il faut que ce soit aussi un divertissement, un spectacle, c'est pas juste pour regarder des gens parler dans un micro, il y a aussi les données visuelles qui comptent, quoi.
Qui sont vos spectateurs ce soir ?
Alors, c'est des auditeurs. En fait, les gens qu'on rencontre pour la première fois, hein, parce qu'on les voyait derrière un écran, on les voyait sur Facebook, sur Twitter, sur nos comptes SoundCloud, iTunes. Donc, en fait, là, depuis maintenant 3 émissions, on vend les places en ligne. C'est une petite participation qui est de 3 euros pour un enregistrement de Nos Ciné, et 5 euros pour la soirée complète avec Nos Ciné et Nos Fun derrière. Donc, on a à peu près 80 personnes qu'on réservait. Et bah, c'est les gens qui écoutent l'émission, qui la connaissent. Il y a plus de filles que ce qu'on croit, parce qu'on a un public qui est très masculin sur ces émissions de pop culture. Et là, on va dire, on a une proportion qui va à peu près d'un tiers, deux tiers.
Et c'est un public très jeune aussi.
Bah ouais, plus jeune que les médias traditionnels, plus jeune que la radio. C'est-à-dire si vous allez à un enregistrement à la maison de la radio, vous allez voir, à part les enregistrements qui sont destinés aux scolaires, mais sinon vous avez un public qui est plutôt âgé. Alors, ici, nous, on a des gens qui sont des gens qui écoutent du podcast, qui sont des gens qui utilisent des médias en ligne. Donc ils ont entre 20 et 30 ans, quoi. La plupart du temps, c'est ça. C'est le public d'Internet, c'est le public qui va sur YouTube, qui écoute Spotify, Deezer, qui va sur Vice, etc. C'est ce public-là qu'on cherche, qu'on vise.
Comment on consomme un podcast comme Nos Ciné ou un podcast Binge Audio en général ?
Alors aujourd'hui, on est diffusé sur toutes les plateformes. C'est-à-dire qu'en fait, on est producteur, éditeur, diffuseur. On produit le programme, on l'édite avec les données visuelles, données textes, et on le met à disposition sur tous les endroits où on peut écouter du son. Parce que l'objectif, c'est d'aller là où les gens sont. On ne les fait pas venir à nous, on va vers eux. Donc on est sur iTunes, 70% de notre écoute. On est sur YouTube, on est sur SoundCloud, on est sur... Mixcloud, on est sur Deezer, on est partout, en fait les gens écoutent du son dans des bonnes conditions, où ils ont l'habitude d'aller, que ce soit pour écouter la musique ou la radio, on est de Radio Line, Radio App, TuneIn, etc. Donc aujourd'hui principalement on est sur tout ça. À terme, alors on peut retrouver tous ces programmes sur un site, hein, mais à terme en fait on aura une application mobile qui permettra aux gens de retrouver tous les programmes de nos qu'on produit et qu'on distribue plus facilement. Mais la première étape, c'est de travailler programme par programme et de fidéliser les gens sur chacune des plateformes, en fait, et autour des programmes.
Comment ils consomment vos podcasts et où est-ce qu'ils les consomment ?
Alors, on n'a pas la capacité aujourd'hui d'avoir des études statistiques. On sait comme ça, en dernier, on a fait 1 million d'écoutes cumulées. là-dedans, nous, on n'a pas la capacité de savoir en détail, proportion, où est-ce que les gens écoutent. Aujourd'hui, on est conforme aux standards du marché, c'est-à-dire les gens écoutent majoritairement à 50% sur mobile, smartphone, et le reste en desktop, c'est-à-dire sur leur ordinateur, au bureau ou à la maison.
Hélène.
Quand j'ai eu ce problème de rein à l'hôpital, on me dit, mais il y a une solution miracle, qui est la greffe.
3, 2, 1.
Et donc, on fait les examens, les prises de sang. Et là, je me rends compte que je ne suis pas compatible avec ma famille. Que mon groupe sanguin ne correspond pas.
À suivre.
En fait, on est le premier réseau de podcasts qui se conçoit comme un média. Bon, c'est-à-dire qu'en fait, le podcast, ça existe, la radio, ça existe, la radio en catch-up, ça existe, enfin tout ça. Je veux dire, ce qu'on amène un peu de différent, c'est qu'on a une démarche de producteur, d'éditeur, de diffuseur et de média. On a une ligne éditoriale, une ambition, une façon de traiter les sujets, un territoire, une façon de diriger éditorialement les choses, etc. Donc, ce faisant, en fait, là, la forme de disruption par rapport, par exemple, à la radio, c'est qu'on fait pas du tout de linéaire. On est uniquement basé sur de l'offre en ligne, à la demande. Donc, on peut dire que c'est de l'innovation par rapport aux médias traditionnels, c'est pas de l'innovation par rapport aux médias YouTube et autres, et les podcasteurs. C'est des contenus qui existent déjà. Il y a déjà, en fait, des gens qui consomment des médias en ligne, qui consomment des podcasts, il y a déjà des gens qui en fabriquent, etc. Par contre, on n'est pas réservé à uniquement un seul thème, un seul sujet, c'est-à-dire qu'on a une démarche de média au sens où on va traiter plusieurs sujets, plusieurs aspects, à travers plusieurs programmes. Donc on a plutôt une grille de programmes, une offre éditoriale un peu élargie, à chaque fois avec des programmes un peu précis, qui s'adressent à un public. Donc en ce sens, c'est vraiment une démarche de média, c'est pas uniquement une démarche de producteur ou d'auteur, quoi. Et 100% plateformisé, c'est-à-dire qu'en fait, en termes de distribution aussi, ça c'est important, on n'a pas de site, on n'est pas, on dit pas aux gens, venez sur www.binge.audio pour consommer les contenus, c'est les contenus qui vont trouver les gens là où ils sont. Ils sont sur YouTube, ben, ils peuvent nous écouter sur YouTube, ils sont sur iTunes, ils nous écoutent sur iTunes, ils sont sur SoundCloud, ben, on est présent sur SoundCloud. C'est-à-dire qu'en fait, dans la distribution et le marketing de nos programmes, on fait en sorte, évidemment, de toucher les gens là où ils sont. Et donc, du coup, les programmes sont conçus pour cet usage, ils sont édités pour cet usage, dans les données textes, les données visuelles, etc. Et enfin, en termes éditorial, ça c'est important, c'est-à-dire que on va dire que chaque média s'appuie sur le savoir-faire qui l'a précédé et puis invente une petite partie dans le contexte où il est. Bah, c'est un peu la même chose pour nous. C'est-à-dire, moi j'ai travaillé en radio, on utilise le savoir-faire de la radio. Par contre, avec des moyens techniques qui sont de bonne qualité, on travaille avec un réalisateur, on a des micros professionnels, toute une chaîne d'enregistrement, mais qui est 100% numérique, miniaturisé, facilement portable, etc., peu coûteuse. On peut se permettre plus de singularité. Donc des fois, ça veut dire on peut se permettre de laisser parler quelqu'un 2, 3, 4 minutes, faire un monologue sur un sujet quand il est en train de traiter un sujet dans nos émissions cinéma, ce qu'on pourrait pas faire en radio où effectivement on se force à la concision. Par contre, si effectivement dans les deux premières minutes on n'a pas déjà accroché les gens, qu'il y a pas un rythme, il y a pas un ton, il y a pas quelque chose qui est donné, eh ben effectivement c'est compliqué. Si les gens donnent pas leur point de vue, leur avis, aussi c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on est là, les gens ils veulent des choses un peu radicales, ils veulent des choses engagées.
Je suis Thomas Rozek, c'est moi qui anime Nos Ciné, donc le podcast sur le cinéma.
Qu'est-ce que change le format podcast à l'émission ?
Alors, ça change à la fois tout et rien. C'est ça qui est rigolo. Parce que moi, je viens de la radio traditionnelle. Avant, je travaillais à Radio France à côté, donc je viens de la radio classique, la plus classique qu'on puisse imaginer. Ça change tout parce que on est maître de notre diffusion, donc ça c'est formidable, c'est-à-dire qu'on enregistre quand on veut, où on veut pas forcément, mais en tout cas où on a choisi d'enregistrer. C'est très souple sur les formats, sur les durées. Si l'émission fait 23 minutes au lieu d'en faire 25 comme on avait décidé, si elle en fait 40 au lieu de en faire 25, c'est pas grave. On n'a pas un journal après qui arrive, qui se télescope, on n'est pas en train de péter l'antenne parce qu'on est en direct et qu'on est en train de foutre le bordel, ou parce qu'il va falloir tout remonter derrière pour pouvoir la diffuser si c'est une émission, on va dire, prête à diffuser. Donc c'est très souple, c'est très libre, c'est des moyens de diffusion qui, je pense, permettent de toucher des gens qui n'écoutent plus la radio, qui n'écoutent pas la radio, en tout cas qui ne l'écoutent pas de manière linéaire, c'est-à-dire pas en allumant leur poste. Ça permet de faire entrer des sujets qui ne sont pas traités par les médias radiophoniques traditionnels que je connais bien. Et donc voilà, cette culture-là, la culture geek, elle n'est pas forcément très bien traitée dans les médias généralistes. Pour nous, le podcast, c'est un autre moyen, comme l'ont été à une époque les fanzines, comme l'ont été à une époque la presse underground. underground, comme l'a été Internet, tout simplement, au début. C'est un moyen de faire parler de notre culture et de mettre en avant notre culture. Donc c'est vraiment un médium passionnant pour nous. Après, quand je dis que ça change rien, c'est que ce qui est rigolo, c'est qu'on est parti d'un truc très artisanal où on était posé sur une table, où on discutait machin, et on est peu à peu en train de recréer le masque et la plume, en fait, parce qu'on est dans un théâtre, les gens sont assis, les gens nous écoutent, ça applaudit, on fait tout un, enfin il y a une petite mise en scène quand même, et moi ça me fait très plaisir parce que c'est des choses que j'aime profondément et j'aime la radio traditionnelle aussi, avec autant de j'ai autant d'affection pour la radio traditionnelle que pour la radio nouvelle, on va dire. Donc c'est rigolo de voir qu'on est voilà, à mi-chemin entre une forme de on va dire de révolution quelque part d'un média qui est très ancien, mais aussi dans une forme de recréation des systèmes anciens, mais qui sont sans doute des bons systèmes aussi, parce que c'est toujours voilà, vous mettez 4 personnes avec un micro et du public, ça peut que marcher si ce que vous dites est rigolo.
Ils font le pari du podcast en France, un reportage de Constance Léon. Toutes les références et tous les liens sont à retrouver sur notre site atelier.rfi.fr. N'hésitez pas à continuer d'interagir avec nous sur les réseaux sociaux. L'Atelier des médias, une émission préparée par Constance Léon, Marie-Stéphanie Servos, Camille Deloche, à la réalisation Simon de Creuse, au micro Julien Lebotte. L'Atelier des médias vous salue bien, vous êtes sur RFI. Merci d'être à notre écoute.
Écho d'ici,